De l'esquive à Shakespeare avec Sabrina Ouazani.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Un petit peu de lune dans notre ciel de la mondiale, un petit peu de Shakespeare et de songe d'une nuit d'été. D'autant que c'est elle, la lune, imprévisible, qui a guidé les escarpins de Sabrina Ouazani. En un seul film, L'Esquive, cette princesse du 9-3 s'est retrouvée sur le tapis rouge du Festival de Cannes. C'était il y a 20 printemps. D'ailleurs, tout est une question de nature chez la Ouazani. Quand elle débarque sur un plateau, on la sent puissante, terrienne, passionnée. Qu'elle soit dirigée au cinéma par Abdellatif Kechiche, Xavier Beauvois ou Mabrouk El Mechri, ou au théâtre par Abdelmalik, comme en ce moment au Théâtre de la Ville à Paris, par Emmanuel de Marcimota, elle le fait toujours corps et âme. Un petit supplément d'âme urbain et très contemporain, idéal pour raviver une langue et un costume venu tout droit du XVIe siècle. Ça se passe comme ça, au pays de Mademoiselle Ouazani. Bonjour Sabrina.
Bonjour Yasmine.
Qu'est-ce qu'on dit ? On dit au pays ou au bled ?
Bled veut dire pays en arabe, donc on va dire que c'est un peu la même chose, mais au pays ça me va. Les deux me vont.
Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme un enfant gâté qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Mais prends garde, chérie, je ne réponds de rien si ma raison s'égare et si je perds patience. Je peux d'un trait rayer nos cœurs d'une existence dont tu es le seul but et l'unique lien. Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître. Et maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi. Parce que tu vis en moi et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prête à mourir si tu mourrais un jour. Car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour, et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil. Parce que
Et non, un portrait de Sabrina Ouazani sur RFI ne commence pas forcément par un bon vieux rap. Aznavour est le premier nom que vous m'avez soufflé de façon passionnée, avec ce titre très rare d'ailleurs, parce
oui.
que...
Oui, parce que c'est une chanson sublime. Moi j'adore tout le répertoire de Monsieur Charles Aznavour. Je suis une grande fan, j'ai été le voir plusieurs fois sur scène. Et voilà, c'est un des premiers qui m'a fait aimer les mots... qui m'a fait découvrir la beauté, oui, de la langue française.
C'est un peintre, hein, on l'entend, et c'est aussi un comédien qui chante, ça s'entend aussi.
Totalement, dans l'interprétation, il a une vibration qui nous transporte et qui nous arrive et qui nous touche en plein cœur.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien la maison, donc je vous présente RFI.
Oui,
et,
ravi.
où on parle au monde entier, et puis en sol majeur, émission de portrait munie d'un abécédaire et d'un chapeau de questions.
Criança, você sonhava de ser Cinderela?
Dernièrement, sur Michael et Cendrillon d'ARD.
Et peut-être qu'un jour, mon rêve deviendra vrai.
Enfant, est-ce que vous rêviez d'être Cendrillon?
Est-ce que je rêvais d'être Cendrillon? Ouais, je rêvais d'être une princesse. C'est comme le métier d'actrice, d'être artiste. J'ai l'impression que c'est un peu un rêve de petite fille dont on rêve un petit peu tout le monde. Ouais, avoir une belle robe, me faire jolie, prendre soin de moi. Ouais.
Alors, vous avez été une princesse qui a vécu en Seine-Saint-Denis. Oui. Donc, il y a beaucoup de fantasmes, hein, comme on le sait, autour de ce département oui. et de Saint-Denis, oui. où sont enterrés tous nos rois. C'est un petit détail que j'aime bien.
Ouais.
C'était comment pour vous cette enfance et cette adolescence à la Courneuve, hein?
Oui, tout à fait. J'ai grandi à la Courneuve, dans la cité des 4000. Ça a été une enfance remplie d'amour, moi, de par ma famille, de solidarité, de joie avec mes amis. À la fois, j'ai beaucoup de merveilleux souvenirs et c'est ce qui m'a forgée, c'est ce qui a fait celle que je suis. Et en même temps, j'ai aussi, comme j'ai commencé à l'âge de 13 ans, assez vite eu conscience parfois de l'instrumentalisation des médias et de la manière dont on était traité les banlieusards. Ce que je voyais à la télé n'était pas ce que je voyais moi, chez moi, dans ma cité. Évidemment, c'est pas tout beau, tout rose non plus. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on a moins envie de regarder, mais il y a aussi tellement de belles énergies, tellement d'ambition, d'envie, d'intelligence, de débrouillardise, de pertinence à certains endroits, que voilà, c'est ça dont j'ai envie de parler quand je pense à ma banlieue.
Alors dans cette banlieue et dans cette période d'enfance ou d'adolescence, concernant la musique, il y avait ça? Comme ça, la Courneuve, il y a Aznavour et Khaled. Oui,
exactement.
C'est quoi Khaled pour vous? Ça représente quoi cette chanson, hein, en particulier?
Oh, ça me fait penser à mon papa. J'ai grandi avec le dimanche, on faisait le ménage avec ma maman, avec du rail à fond, qui nous enchantait. Les genoux de mon papa qui me chantait Barta ou Yaraya. Ce lien avec mon pays d'origine, l'Algérie. Et puis je viens de Sidi Bel Abbès en Algérie, qui est la ville où est né le rail.
Oui, donc, à 80 km de Rouen à peu près.
Exactement, ce que mon père n'a cessé de me répéter, telle une grande fierté.
C'est quoi l'histoire de ce papa?
C'est un papa qui est venu en 76 pour faire une licence en sociologie et relations internationales. Et c'est l'histoire de ce papa qui se bat pour son amour, qui va rencontrer ma mère assez jeune, qui elle est venue en France vivre à Brignoles à l'âge de 9-10 ans. Ils vont se retrouver tous les étés et ils vont choisir de s'aimer et de se battre pour leur amour.
Alors vous savez, Sabrina Ouazani, dans cette émission qui est née, je le rappelle, au moment de la création du ministère de l'Identité nationale et de l'Immigration, justement pour qu'on raconte nous-mêmes nos parcours, j'entends souvent des Français d'origines diverses, maghrébines, africaines, asiatiques, raconter combien ça avait été un manque pour eux de ne pas pouvoir s'identifier pendant l'adolescence notamment à des stars, à des icônes comme ça qui leur ressemblent. Est-ce que vous, gamine, vous avez ressenti ce manque?
Totalement. Moi, dans les stars, dans les gens connus, je n'ai personne parce qu'effectivement, personne ne me ressemblait. Je pense que l'un des premiers où tout d'un coup je me suis dit « Ah, il a un peu la même couleur de peau que moi » et puis il a l'air de pas avoir une école derrière lui. Peut-être que oui, je le sais pas, mais le premier ça a été Samina Seri avec Taxi. J'avais pas encore connaissance de Rachida Brakni, même si je savais qu'elle faisait déjà ses premiers pas au cinéma. Mais dans le paysage télévisuel de l'époque, effectivement, il n'y avait personne.
Donc peu de références culturelles, mais à la maison, la référence, c'est Mama, votre mère.
Oui.
Elle a été importante, on va le dire pourquoi. Mais si vous deviez faire un portrait de Mama.
Maman, ma mamounette, qui s'appelle effectivement Mama, c'est une femme qui a grandi, évolué avec peu de moyens, qui s'est enfuie avec mon papa. pour vivre leur histoire d'amour.
Ah oui, c'était une fuite, vraiment?
Ah oui, c'est une fuite. Elle était censée se marier avec un autre homme, mais elle aimait déjà mon père. Donc
il y avait un mariage arrangé.
Oui, et donc ils ont décidé de s'enfuir pour vivre leur histoire d'amour, quitte à ne plus avoir de nouvelles avec leur famille. Et je sais ô combien ça a pu être déchirant et difficile, mais elle a fait le choix de l'amour. Ma maman, c'est mon exemple, c'est un modèle de courage, de dignité, de persévérance. Voilà.
Pour qui connaît la légende Sabrina Ouezani, on a déjà eu, vous voyez. On sait que c'est grâce à Mama qui vous inscrit à un casting, alors que vous êtes toute jeune, 13 ans, quelque chose comme ça, que vous vous retrouvez derrière la caméra de Delatif Kechiche. On est en 2004. Et alors donc, j'ai pas résisté à ressortir un extrait de l'esquive. On va écouter, vous riez déjà, cette scène où on est au bas des tours, vous jouez Frida.
Oui.
Et après l'avoir beaucoup attendue, vous voyez arriver une certaine Lydia, qui est interprétée par Sarah Forestier, qui, pour répéter une scène du jeu de l'amour et du hasard, a trouvé une robe d'époque.
T'as regardé la chiquive, elle est belle ou pas?
Ouais, franchement, elle est belle, mais quand même, c'est pas une raison pour être en retard.
Ouais, mais elle est belle ou je te demande, elle est belle ou pas?
Ouais, franchement, elle est belle.
C'est vrai?
Ouais.
Merci, c'est
gentil. Ouais, mais t'as traversé toute la cité, c'est un peu comme ça, là.
Ouais, bah ouais.
Mais la chemin, t'es folle devant tout le monde.
Bon, je m'en fous, moi, des gens. Je me sens mieux dans mon personnage, c'est mieux comme ça, quand je m'en fous, je les emmerde.
T'es folle, hein.
Toi, n'importe quoi. Moi, je suis plus dans mon personnage quand j'ai ma robe. T'as dit, c'est mieux pour jouer, vous trouvez pas? C'est mieux pour jouer?
Bon, mon costume, il va être très soirceux, là.
Ah ouais?
Ouais.
Voilà, c'est vrai?
Toujours.
Eh, ça va être chiant si on a tous nos costumes. Ça va trop le faire.
Tu sais, on en a rien à branler des costumes. Franchement, ce qu'il faut, c'est vivre le sentiment du personnage. Faut que ça vienne de l'intérieur, tu vois. Faut ressentir l'esprit, etc. quoi. Faut pas voir l'apparence, faut voir ce qui dégage, etc. Et les habits, franchement, on en a rien à foutre. Hein. C'est pas l'apparence qui compte, c'est le cœur, etc. tu vois.
Ah, ça dépend, sérieux. Ça dépend. Tu te rappelles l'interview de l'acteur, hein?
Ah, ça. Avec ses bons,
quoi. Ouais. Ben, la dernière fois, t'as vu, on avait vu une interview d'un acteur. Ben, elle a dit que lui, il sentait les sentiments de son personnage que quand il avait mis ses chaussures. Hein. Tu vois comme quoi, franchement, ça dépend.
Rewind avec Sabrina Ouezani dans l'esquive et dans le fauteuil dans le sol majeur. Alors, le spectacle, il est aussi dans le studio. En ce moment, parce que vous avez l'air sidéré en réécoutant cette scène.
Ah non, mais c'est incroyable, effectivement. D'entendre ma voix, de réentendre le texte Sarah, Rachid, qui m'accompagne ou que j'accompagne dans cette scène, mais c'est complètement fou. J'avais déjà ma petite voix de petit garçon à l'époque, alors que j'avais seulement 13 ans. Et c'est dingue, j'ai des souvenirs qui sont évidemment inoubliables. Mes premiers pas devant une caméra, grâce à ma maman qui effectivement m'a proposé comme ça un après-midi d'été de passer ce casting, mais comme une activité pour passer le temps sans se dire qu'on va nous rappeler.
Ouais.
Et puis me voici, me voilà.
Alors, il est passé où finalement votre accent, votre célèbre accent de banlieue? Parce que là, il a l'air gommé. Hein.
C'est vrai, il y a un mélange de tout. Je pense qu'il y a le temps et l'âge un petit peu. Mais effectivement, moi, mon accent de banlieue, ça a été une tare pendant très très longtemps. On me le reprochait beaucoup en casting, dans mes rencontres avec des réalisateurs. C'était quelque chose de plutôt bloquant, segmentant. Et donc effectivement, il a fallu que je travaille ma diction. Alors j'ai essayé plein de choses parce que j'avais pas de réponse, que j'avais pas les moyens de me payer des cours. Et du coup,
vous avez fait, alors?
Bah, j'ai dû un peu ralentir ma diction, essayer d'avoir un vocabulaire un petit peu plus joli, de dire moins de gros mots, de plus articuler. Et puis même avec ça, on me disait quand même, non Sabrina, on entend, tu viens de la banlieue, bah non, là c'est pas possible. Et puis c'est Christophe Baratier que j'ai rencontré en faisant un film qui s'appelle L'Outsider sur Jérôme Kerviel, qui lui m'a dit, oui Sabrina, le personnage qui existe vraiment, la femme de Jérôme Kerviel, ne vient pas de banlieue et donc il faut qu'on travaille sur ta diction. Et toi, c'est beaucoup tes R ouais, que tu fais un petit peu. Et du coup, voilà, il m'a enfin donné un petit peu la solution et ce sur quoi je devais travailler pour adoucir cet accent.
Si je me remets dans l'état d'esprit des personnages de l'esquive, c'est quand même délicieux. Est-ce qu'à l'époque, à 13 ans,
oui,
faire du théâtre ou du cinéma, c'était un loisir de bouffon? Je cite.
Je ne sais pas si c'était un loisir de bouffon. En tout cas, ce n'était pas quelque chose. Je pense qu'on préférait aller à la MJC pour apprendre le breakdance ou pour rapper ou, voilà, ou faire de la musique. J'ai l'impression qu'on la regardait un peu plus avec des yeux qui brillent plus que le théâtre.
Et devenir actrice, alors, comme ça, du jour au lendemain, ça représentait quoi pour vous?
Ça a pendant très très longtemps pas représenté énormément de choses, si ce n'est le kiff et le plaisir du moment présent. J'ai toujours tellement l'impression que c'est quelque chose qui peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain que je m'y suis pas accroché. Pendant longtemps, il m'a fallu vraiment pratiquement 10 ans pour pouvoir me dire « je suis actrice, je suis une artiste ». J'ai continué mes études, j'ai fait un bac économique et social, une licence d'histoire, parce que je me suis dit « oui, demain, on va plus vouloir de moi, on va se dire « c'est bon, l'arnaque a assez duré, ça suffit maintenant, ramenez-moi une vraie actrice sur mon plateau ».
Il y a une question de légitimité, quoi.
De légitimité, évidemment, et puis sans bagage, sans formation. Donc, j'essayais d'avoir quelque chose de solide derrière pour pouvoir faire une reconversion et faire quelque chose que j'aime.
Alors après ce César 2005 pour l'Esquive, du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur espoir féminin, le conte de fées continue pour vous, Sabrina Ouazani, puisqu'après avoir tourné pour Daniel Thompson, Cédric Clapiche, de nouveau Kechiche dans La Graine et le Mulet, vous tournez sous la houlette d'un certain Xavier Beauvois, un film magnifique, Des hommes et des dieux. C'est une histoire librement inspirée de l'assassinat peut-être par le GIA, des moines de Tibirine, donc en Algérie en 1996. Et là, vous campez Rabia, qui est en discussion dans cette scène avec le moine Luc.
Mais comment on sait quand on est vraiment amoureux ?
Et il y a quelque chose en vous qui s'émeut, la présence d'un être qui est incontrôlable et qui fait que le cœur bat, généralement. Et c'est une attirance, c'est un désir, c'est très très beau. Donc, faut pas trop se poser de questions, tu sais, c'est un état de fait. On est comme ça, puis tout d'un coup, c'est le bonheur, enfin l'espoir du bonheur, c'est un tas de choses. Mais enfin, c'est un grand trouble. Surtout quand c'est la première fois. Mais dis-moi, ton père m'avait parlé de Khaled ?
Non, mais mon père, il parle trop. Non, moi, je veux pas. Bah, tu vois, ce que tu m'expliques, là, moi, Khaled, bah, ça me fait rien quand je le vois.
Oui, bon, alors c'est que c'est pas très sérieux.
Bah, c'est mon père qui fait moi.
Ah, bah, là, c'est un autre problème.
Toi, t'as déjà été amoureux ?
Parler d'amour avec un moine interprété par Michael Lonsdale, ça se passe dans votre sol majeur. Quel souvenir vous gardez de cette scène extraite des hommes et des dieux, Sabrina Ouazani ?
Un moment un peu hors du temps avec Michael Lonsdale, immense monsieur qui était rempli de générosité. Un moment de plaisir et de liberté aussi parce que, enfin, c'est un petit secret, mais en même temps je sais que Xavier l'a déjà évoqué, c'est une scène qui s'est improvisée entre Michael et moi. Sur l'amour et en même temps c'est drôle de l'entendre après 10 ou 15 ans parce qu'effectivement à mon âge on entend les mots, le texte un petit peu différemment, cette définition de l'amour encore différemment, encore plus vibrante et c'est génial.
Grand prix du jury au Festival de Cannes en 2010 pour ce film de Xavier Beauvois où il vous confie le rôle d'une habitante de Tibirine. Donc Tibirine se situe à 90 km d'Alger. C'est drôle parce que vous ne connaissez presque rien de l'Algérie.
Ouais, c'est vrai, c'est fou. En fait, j'ai jamais été, moi, à Sidi Bel Abbès. À ce moment-là, j'ai jamais été même en Algérie avec mes parents. J'y suis jamais allée. Entre-temps, j'y suis allée un peu pour le travail. J'ai un rapport particulier avec ce pays que j'aime tant et avec ce manque dont on parlait un peu tout à l'heure que m'a transmis mes parents. Et donc, à défaut d'y aller, j'ai beaucoup étudié l'Algérie par les livres. J'ai fait tout un mémoire sur la colonisation, décolonisation de l'Algérie.
Ah oui ?
Oui, mais parce que j'avais ce manque qui me bouffait, qui prenait énormément de place par moment en moi. Et donc, quand Xavier Beauvois est venu me proposer Des hommes et des dieux, c'était encore une autre manière de découvrir ce pays. Malheureusement, on n'a pas pu tourner en Algérie directement là-bas. Exactement. Mais
ça pose la question quand même de la perception que le monde du cinéma ou de la culture pose sur vous. C'est-à-dire que vous êtes trop banlieusarde pour certains films et vous êtes forcément l'Algérienne pour d'autres.
Totalement, mais ça a été... Moi, je me rappelle d'avoir voulu passer un casting avec mon ancien agent... Guylaine Zé, paix à son âme, que j'adorais. Et Guylaine, bah, je lui dis, mais j'ai entendu parler d'un casting, une jeune fille de 20 ans qui vient de vivre sa première histoire d'amour. Et je crois que c'est trop beau et j'aimerais bien passer le casting. Et elle m'a dit, bon, alors Sabrina, je me suis renseignée. Ils cherchent une jeune femme de 20 ans. Ils n'ont pas maghrébine. Et j'ai dit quoi? Ils ont précisé caucasienne. Et je ne suis pas sûre, je vais vérifier. Je lui ai dit, mais alors quoi? Moi, je ne suis pas une jeune femme de 20 ans. Mmh. Je n'aime pas comme tout le monde. L'amour, ce n'est pas universel. Et donc, effectivement, assez vite, ça m'a ouvert les yeux sur les aspérités et la volonté parfois de beaucoup à ce moment-là de réalisateurs... Et de la manière dont le regard qu'on posait sur moi et la manière dont on me voyait, j'étais pas juste une jeune femme, j'étais une jeune femme de surcroît maghrébine et banlieusarde, oui.
Alors justement, ça m'autorise cette question, est-ce qu'après avoir tourné dans Taxi 5, Kung Fu Zora, qu'on n'a pas le temps d'évoquer, ou encore Loin du périph', je vais la faire la question. Est-ce que vous avez l'impression de l'avoir traversé le périph' artistiquement?
Oui. Oui, j'ai l'impression que c'est un travail qui ne s'arrête jamais. On n'y est pas encore, on n'est pas au bout, mais je dois dire qu'effectivement, en étant là depuis 22 ans, j'ai quand même vu les choses évoluer. J'ai vu des rôles émerger, apparaître, où le rôle ne s'apparente encore moins aux origines ou à la catégorie sociale. Donc ça évolue dans le bon sens, ouais, mais on n'y est pas encore totalement.
Hélas, pourquoi faut-il dans tout ce que j'ai lu ou ce que j'entendis de contes ou d'histoires qu'un véritable amour n'ait jamais cours facile? Écoutez ces deux jeunes Athéniennes. Je fronce les sourcils, mais ils m'aiment toujours. Veuille vos sourcils à mes sourires enseigner ce tour. Je le maudis, mais lui répond par de l'amour. Puissent mes prières avoir cet effet en retour.
Jay.
Plus je le hais, plus il me poursuit. Plus je l'aime, plus il me hait. C'est sa folie, Elena, et je n'y suis pour rien.
Jay.
C'est votre beauté, Hermia. Que n'ai-je ce défaut? Consolez-vous, Démétrius ne verra plus mon visage. Lysandre et moi, tous deux, nous allons fuir d'ici.
J'ai comme jeu de main, jeu de vilain.
Un petit peu de Mendelssohn sur RFI.
Wow.
Et de Songe d'une nuit d'été pour un sol majeur, dit par Stéphane Brunschweig, le directeur du théâtre de l'Odéon, qu'on salue. Tout ça pour approcher un certain William, Sabrina Ouazani. Oh, quand oui. On vous a proposé Shakespeare, quelle a été votre première réaction?
Ça a été fou et si je suis honnête, et pourtant je ne suis pas toujours très très émotif ou à montrer beaucoup mes sentiments, mais là je l'avoue que j'ai eu une petite larme de joie parce qu'il y avait aussi une sorte de réponse aussi, comme si le destin m'apportait une réponse. Il y a 20 ans, quand je présentais l'esquive, un journaliste m'avait demandé quel personnage je rêvais d'interpréter. J'avais répondu Juliette, j'avais répondu que je rêvais de jouer du Shakespeare un jour. Et ce journaliste m'a rayonné. Il s'est vraiment moqué de moi. J'avais l'impression qu'il me montrait un peu mon visage, comme si une maghrébine ne pouvait pas interpréter, jouer du Shakespeare, comme si mon accent, effectivement, allait être un frein à tout jamais pour pouvoir fouler un jour les planches d'un théâtre. Et donc, tout d'un coup, quand Emmanuel de Marcimota m'approche pour ce merveilleux rôle qui est Hermia dans Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, ça a été complètement fou.
À bon entendeur, hein, si ce journaliste nous entend.
Oui.
Le songe, donc, dans une nouvelle traduction de François Regnault, donc mise en scène par Emmanuel de Marcimota. Vous êtes rompu au pitch? Je le fais ou
vous
le faites?
Je vous laisse y aller.
C'est l'histoire d'Hermia qui veut épouser Lysandre, mais son père Égée la destine à Démétrius, dont est amoureuse Héléna. Lysandre et Hermia s'enfuient dans la forêt, poursuivis par Démétrius, lui-même poursuivi par Héléna. Cependant qu'un certain Obéron, c'est le roi des fées, a ordonné à Puck de verser une potion sur les paupières de sa femme, puisqu'il a envie de s'amuser, sauf que la potion n'ira pas sur les bonnes paupières. Trois petits points de suspension. C'est une mise en scène absolument somptueuse d'Emmanuel de Marcimota. À mes yeux, le personnage essentiel n'est autre que la forêt elle-même.
Totalement.
puisqu'avec ses esprits, ses elfes et ses arbres mouvants, elle bouge. Est-ce que vous nous diriez, belle Hermia, puisque c'est votre personnage, un extrait de ce songe ?
Avec plaisir. À présent, je ne fais que gronder, mais je pourrais te traiter plus mal, car toi, je le crains, tu m'as donné motif de te maudire. Si tu as tué Lysandre dans son sommeil, jusqu'à ses pieds dans le sang, plonge-m'y jusqu'au fond, et tue-moi aussi. Le soleil n'était pas aussi fidèle au jour que Lysandre l'était à moi. Se serait-il arraché à la dormante Hermia ? Je croirais plus volontiers que la terre entière eût été trouée et que la lune eût pu se glisser en son centre et ainsi aller contrarier le soleil, son frère de midi jusqu'aux antipodes. Il n'aura pu se faire que tu ne l'aies pas tué. Tel doit paraître un meurtrier mortellement sinistre.
Vous nous resituez ce passage du songe d'une nuit d'été, Sabrina Ouazzani ?
Ce passage, c'est un moment où Hermia s'est réveillée. Alors qu'elle s'était couchée avec l'amour de sa vie, Lysandre, elle se réveille sans lui, abandonnée. Et elle est à sa recherche et elle croise Démétrius dans la forêt qu'elle accuse de lui avoir enlevé son cher et tendre.
Parce que la potion magique, la fameuse, a fait son œuvre, mais pas dans le sens de l'amour. Qu'est-ce que dit cette pièce, à votre avis, de la place des femmes dans le mariage, notamment ?
Bah, je crois qu'elle l'a remet à la bonne place, justement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont attendues parfois des femmes, qu'elles se marient. On décide pour elles, sans leur consentement, sans leur demander leur avis. Et finalement, à travers ce personnage d'Hermia et d'autres dans la pièce, on reprend nos droits, on reprend les choses en main, on reprend notre pouvoir d'aimer et de décider.
Je le disais, dans cette mise en scène, la forêt est mouvante, tout comme l'inconscient, finalement. Je ne sais pas si vous y croyez, vous, à l'inconscient, mais en tout cas, l'inconscient n'est pas toujours d'accord avec les codes, qu'ils soient religieux, sociétaux, patriarcaux, c'est le mot-clé en ce moment. Est-ce que ça vous déplace, ce songe, dans votre vie à vous personnelle ?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont effectivement mouvantes, qui évoluent, et en même temps des choses qui sont très solides et très ancrées, des volontés presque viscérale et donc qu'il faut défendre.
Mais vous êtes vous-même en remise en question par rapport à toutes ces questions
sans cesse.
MeToo, on va dire, pour employer le hashtag de l'époque.
Oui et non. J'ai l'impression qu'en fait, défendre notre corps, défendre notre volonté de juste choisir, décider d'être qui on est, j'ai l'impression que ça devrait être un non-sujet, en fait. C'est ça qui m'étonne, qu'on en soit encore là.
Donc vous êtes plus loin que MeToo.
Bah, un petit peu. Pour moi, c'est comme un moment quand on a inventé un peu la discrimination positive pour les jeunes de banlieue. J'ai envie de dire, c'est triste qu'on doive passer par là pour pouvoir accéder à certains métiers, pour pouvoir accéder à certaines choses. Et pour les femmes, c'est pareil. J'aimerais que ce soit juste la norme, en fait. Donc, évidemment, je crois que je suis dans un rapport très terre à terre aussi et très simple avec tout ça. Je ne me pose pas la question. Je ne suis pas en dessous, je ne suis pas au-dessus. Je suis légale.
Alors, si on revient à votre personnage, donc vous campez Hermia quand même, c'est le cadeau de l'année pour vous. Mmh. Est-ce que vous ressentez donc ce personnage en vous glissant dans vos chaussures ? Faire un petit clin d'œil à l'esquive.
Bah, d'une certaine manière, évidemment que le costume permet d'épouser, bon, bien sûr, le corps, mais surtout le personnage. Moi, les chaussures que porte Hermia, c'est pas des chaussures que je vais porter dans la vie, et donc ça me donne une autre démarche.
C'est quoi
ça,
ces chaussures ?
C'est des sortes de bottines à talons. Je porte une autre attention à la manière que j'ai d'évoluer sur cette scène. Je joue une lord aussi, quelqu'un qui vient d'un univers un peu plus haut, socialement parlant, que le mien.
Vous êtes la fille des G.
Et totalement, la fille des G. Donc il y a une autre grâce, une autre manière de se mouvoir, une autre manière de parcourir cette forêt, finalement.
Voilà. Alors, il y a les chaussures, il y a la robe, puis il y a la langue.
Oui.
Alors, même si elle a été réécrite, c'est pas la langue de la télé.
Non,
comment
c'est
vous sentez dans cette langue de Shakespeare ?
Mais moi, j'adore. Je trouve ça sublime. Il a été, la première traduction était en vouvoiement. Moi, je trouve qu'il y a une beauté, quelque chose de très élégant aussi dans le vouvoiement, mais finalement, Emmanuel a choisi de passer au tutoiement pour avoir un autre lien avec quelque chose d'intemporel et le monde de maintenant. Mais oui, moi, je suis portée tous les soirs par la beauté des mots de William Shakespeare.
Mais je le disais en ouverture, vous avez aussi dans votre boîte à outils un autre langage, une autre phonétique. Vous avez un double logiciel linguistique, aujourd'hui, on pourrait le dire comme ça. Vous pouvez jongler, vous pouvez vous permettre de mettre de l'urbain, du contemporain, si on veut le présenter de cette manière-là, dans une langue très classique. Oui. Est-ce que c'est ça, votre travail ?
Oui, on s'est posé la question de se dire, effectivement, est-ce qu'on va dire « tu voudrais » ou « tu voudrais ». Est-ce qu'on va atténuer certaines consonnes ? Est-ce que dans le débit, moi je sais que j'ai un débit assez rapide dans la vie, comment on va jouer avec ça ? Et finalement il m'a dit « mais non, mais en fait on va s'amuser avec ça, à enlever toutes les élisions que tu as l'habitude de faire, amusons-nous avec tout ça et malaxons cette langue pour prendre un maximum de plaisir et rendre cette pièce et ce texte intemporel ».
Alors dans le travail, vous êtes prête à faire beaucoup, hein, je pense, dans l'investissement, surtout lorsque vous l'expliquez, certains sujets sont complexes. Par exemple, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez tourné Inch'Allah d'Anaïs Barbeau-Lavalette ?
D'abord, j'ai appris le palestinien.
Carrément ?
Oui, j'ai appris la langue palestinienne, j'ai appris mon texte. Mais
l'histoire en un mot de ce film ?
Alors ça raconte une jeune médecin canadienne qui vit en Israël et qui passe le checkpoint pour aller travailler en Palestine en tant que médecin et qui va rencontrer Rand, mon personnage, qui est une jeune femme enceinte palestinienne.
Donc vous avez appris le palestinien ?
J'ai appris le palestinien, puis ensuite j'ai été passer beaucoup de temps dans des camps de réfugiés palestiniens en Jordanie. Je suis allée aussi à Ramallah.
Et vous pensez que ça a changé ? Ça a impacté votre manière de rentrer dans le personnage ?
Oui, évidemment. De voir les conditions et la vie qu'ils n'ont pas choisi de vivre, de voir la manière dont ils sont traités, d'aller voir aussi en vrai ce mur de séparation, ce mur qui les sépare de leur vie d'avant, de leur terre et de leur famille. Ça a été quelque chose qui m'a marqué, oui.
Vous diriez que vous êtes une adepte de la méthode Actor Studio, c'est-à-dire ne pas jouer mais vivre, puiser en soi et en sa réserve d'émotions.
Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Abdelatif Kechiche qui m'a toujours menée vers ce chemin-là et qui m'a toujours dit « ne joue pas Sabrina, ne joue pas, sois, vis-le, sois le personnage, sois ce qu'elle vit à ce moment-là ». Et effectivement, ça a été toujours ma manière d'aborder les films et les rôles depuis.
J'invite les auditeurs qui le peuvent à aller découvrir ce songe d'une nuit d'été en ce moment au Théâtre de la Ville avec vous, Sabrina Ouazzani et Élodie Bouchèze notamment. C'est jusqu'au 10 février. Alors dans votre parcours, parce qu'on a réussi à se parler quand même 30 secondes au téléphone, oui. Je sais qu'il y a d'autres metteurs en scène ou réalisateurs qui ont été importants pour vous. Et vous m'avez cité un certain Abdelmalik.
Oh oui.
Que vous retrouvez en 2019 lorsqu'il met en scène Les Justes d'Albert Camus.
Oui, mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi, et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine, dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frère, je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi, vivant la révolution, devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerais. Devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerais.
Et si un jour, moi, vivant la révolution, devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerais.
Et si un jour, moi, vivant la révolution, devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerais.
Expérience intense, j'imagine que la langue et la pensée de Camus revisitée par Abdelmalik, Sabrina Ouazzani.
Quel génie, mais vraiment, il est incroyable. Son interprétation, sa vérité du moment, c'est quelque chose qui me bouleverse vraiment et qui me donne des frissons.
Et puis il y a Camus et vous m'avez évoqué l'étranger. Vous avez été une lectrice attentionnée l'étranger.
Oui.
Alors vous savez qu'il y a des générations d'Algériens qui ont discuté au fil des années sur cet étranger, sur notamment la place de l'arabe, qui n'a pas de nom dans ce roman. Mmh. Est-ce que ces enjeux de lecture et d'identité vous intéressent ?
Oui, moi je suis contente que la nouvelle génération puisse évoluer dans la France d'aujourd'hui, non, parce qu'en même temps, la France d'aujourd'hui, elle a aussi ses défauts vis-à-vis de l'immigration, etc. Mais effectivement, moi, ça a été compliqué de me dire, ouais, ok, quelle place j'ai dans ce monde ? Est-ce que je suis française ? Je le suis profondément, j'aime mon pays, je suis née là, la question ne devrait pas se poser. Mais finalement, la question se pose, pourquoi ? Pourquoi on me fait comprendre que je suis moins importante que d'autres ? Puis en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai la double tare, entre guillemets. Je le dis avec le sourire, évidemment, et beaucoup d'ironie, d'être à la fois d'origine algérienne, musulmane, et d'être en plus banlieusarde. Donc effectivement, me trouver dans ce monde et savoir qu'est-ce qui pourrait me définir et qui je suis. Et finalement, c'est la multitude de plein de choses.
Vous avez travaillé dessus, vous parliez, vous évoquiez tout à l'heure un mémoire sur la colonisation hein, que vous avez fait. Donc ce contentieux entre l'Algérie et la France qui est toujours à la manœuvre.
Eh oui.
C'est un sujet qui vous travaille, que vous guettez du coin de l'œil.
Mais totalement. C'est-à-dire que le rapport entre la France et l'Algérie, c'est un couple qui s'est marié, qui a divorcé et qui a maintenant des rapports très compliqués. J'ai l'impression que le mari ne veut pas reconnaître ses torts. Le mari, c'est la France. À mon sens.
Et vous êtes quoi alors dans cette histoire ?
Moi, je suis française, fière de l'être.
Vous êtes l'enfant qui va remettre la balle au centre. Vous êtes artiste en plus.
Je suis artiste et puis je suis l'enfant de ces deux parents en fait. Je suis l'enfant de la France et l'enfant de mon pays que j'aime, qui est aussi l'Algérie. Et donc j'ai envie de dire, voilà, ça fait aussi ça. Pour moi, c'est ça le cadeau. C'est nous, les enfants de la République, qui sommes français, mais avec une origine, une culture double, lointaine, parfois, voilà.
Jinab et Mabe, Ngaranyam de Gallema.
Tangshine Pumonim Keso, Tiburo Chasnida.
Encore des fantômes.
Tangshine Pumonim Beke, Otan, Yuri Petrikes Nika.
Nikit Haman Chumbishema.
Vos parents viennent dîner à la maison. Que leur cuisinez-vous ?
Qu'est-ce que je cuisinerai à mes parents ? Bonne question. Je ne m'aventurerai pas sur un couscous.
C'est le couscous de maman.
Voilà, exactement. C'est le meilleur. C'est celui de chacun, pour chacun, celui de sa maman. Donc moi, c'est celui de ma maman, le meilleur, évidemment. Je n'irai pas sur une malqa, je n'irai pas sur un plat algérien, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas mieux qu'à la maison et fait par les mains d'amour de ma maman. Donc,
petite joueuse, hein, quand même.
Ouais. Non, c'est vrai, je ne me risquerai pas trop. Donc je leur ferai des lasagnes. Parce que j'adore ça, que c'est un de mes plats préférés et que mes parents, ma mère, adorent mes lasagnes. Donc, je serai contente de leur faire ça.
Petite femme d'intérieur, comme il se doit.
Oh.
Ou est-ce que MeToo est passé par là ?
Oh, un peu des deux. Non, je suis très, très bordélique. Donc... Donc, je suis pas sûre d'être la parfaite femme au foyer qui soit. Mais oui, envie de m'occuper d'un chez-moi. J'adore cuisiner. Dès que je reçois, j'ai le plaisir de cuisiner pour mes convives. Et puis voilà.
Et votre Algérie à vous dans tout ça ? Alors, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que vous avez écrit un court-métrage en 2017 intitulé « On va manquer » avec une certaine Biouna pittoresque, on va dire.
Oui.
Vous n'allez pas couper au pitch, là ? Rapidement.
Rapidement, effectivement, c'est donc le personnage de Faïza, interprété par Biouna, qui s'apprête à recevoir sa belle-mère qui vient d'Algérie pour la fête de l'Aïd. Et donc, évidemment, elle prépare son intérieur et un immense repas pour pouvoir les recevoir au top. Et puis, les choses ne vont pas se passer comme elles sont censées se passer. Et puis,
la tension monte jusqu'au cri du cœur.
Comment ? T'as mis une musique d'ambiance ou quoi ?
Y'a un bouton !
Y'a un bouton !
Y'a un bouton ! Truc de ouf ! Viens là ! Viens là, Fredo ! Je vais t'appeler Fredo.
Ah ! Oh là là, comment il est adorable ! Il est trop mignon !
Il est tout petit ! Il est tout petit ! Je me suis réveillée à l'aube pour l'acheter. Et le vendeur, il m'a juré que c'était le plus gros mouton de l'île de France. De la France, d'Europe, gars.
Oui, il a de la chance parce qu'au salon de l'agriculture, ils ont l'air gros parce qu'ils ont beaucoup de laine, mais.
Non, stop, maman, tu vois quoi là ? Il y a un mouton, pourquoi il y a un mouton chez nous ? Vas-y, reste là.
C'est l'Aïd, mon fils.
Et alors, depuis quand il y a un mouton à la maison ?
Depuis toujours.
Quoi ? Mais je sais, mais je te parle d'un gros vivant là, comme ça, regarde comment il est.
Eh ben, mon fils. Tu vas décorer.
Non, je te touche pas.
Tu veux l'adopter ou quoi ?
Non, mais maman, tu fais comment d'habitude ? Tu l'achètes à la boucherie.
Écoute-moi, mon fils. Ta grand-mère, elle va venir.
Maman, s'en fiche de mamie là.
Alors fais-le pour moi.
Non, non, je touche pas, je te prie, maman, arrête, stop, je touche pas.
Tu veux pas?
Non, je te touche pas.
Mais tu es l'homme de la maison, non?
Mais non, c'est toi l'homme de la maison.
Pour un sol majeur, le mouton dans l'appartement pour fêter l'Aïd en banlieue parisienne. Si c'est pas le cliché de la famille maghrébine que vous nous servez sur un plateau, Sabrina Ouazani, est-ce que c'est pour mieux le tuer, ce cliché ?
Évidemment, évidemment que c'est pour mieux le tordre, ce cliché. C'est d'ailleurs ce que répond le personnage de Yamine, interprété par le merveilleux Souleymane Erkiba. Maman, d'habitude on va à la boucherie, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais arrête maman, on fait plus ça. Et c'est justement, c'est un film sur le poids du regard des gens et sur la manière dont on a de se changer, de devenir une autre personne pour pouvoir plaire aux autres, parfois, et là en l'occurrence à sa belle-maman, quitte à aller trop loin dans ses délires, et là en l'occurrence avec ce mouton qu'elle a envie d'égorger avec un couteau à beurre, donc vraiment tout est ridicule dans cette scène, mais oui, c'est prendre les clichés pour pouvoir mieux les tordre et s'en défaire.
Alors, qu'est-ce que vous allez aborder dans le prochain cours? Je ne sais pas si c'est un cours que vous avez intitulé Là-bas.
Là-bas, c'est l'Algérie. Là-bas, c'est ce pays qui m'a suivi durant toute mon enfance avec le raï qui m'accompagnait au quotidien, avec cette langue que j'entendais un petit peu à la maison.
Vous ne parlez pas l'arabe ?
Non, je ne parle pas l'arabe. Mes parents, je crois qu'ils avaient tellement envie, besoin que je m'exprime au mieux. Ils savaient tellement que l'intégration était difficile et compliquée à cette époque-là qu'effectivement, ils se sont dit, on va lui apprendre le français et qu'elle le parle, mais parfaitement, en revanche. On ne va pas lui embrouiller l'esprit avec une autre langue, alors que le cerveau d'un enfant est souvent éponge et très malléable et apprend facilement. Mais eux, ils se sont dit, c'est non. Donc du coup, j'entendais parler l'arabe beaucoup pour les disputes, pour pas qu'on comprenne.
Donc là-bas, c'est quoi ? Ça va être un portrait un peu d'une Algérie sublimée, fantasmée ?
D'une Algérie fantasmée, en tout cas de ces enfants d'immigrés qui effectivement peuvent venir de peu importe d'où, en Afrique, en Asie, ailleurs, de ces enfants d'immigrés qui ont, j'allais dire, subi à la fois l'exil de leurs parents et en même temps leur nostalgie et l'amour qu'ils portent à leur pays. On fait le grand écart entre cette volonté, ce désir de quitter le pays pour pouvoir espérer trouver mieux ailleurs et en même temps cette tristesse d'avoir quitté ses terres, ses repères, sa famille et cette nostalgie qu'on nous a transmise à nous, les enfants d'immigrés, sans qu'on ait pu, normalement, la nostalgie, c'est quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on a senti, qu'on a vu. Moi, j'ai eu la nostalgie de l'Algérie sans même la connaître.
Mais la roue tourne, et joliment aussi, puisque j'ai la sensation que vous êtes aujourd'hui, Sabrina Ouazani, l'un des visages de la France, puisque vous en êtes à faire des séries aujourd'hui, notamment Prière d'enquêter. Sourire incroyable, toujours. Mais je me disais que rentrer dans le petit écran, c'est rentrer aussi dans l'inconscient franchouillard. Est-ce que ça, vous le vivez comme une victoire ?
Oui, totalement. C'est complètement fou pour moi. Moi, je sais que pendant très longtemps, il y avait le snobisme un peu du cinéma envers la télé. Moi, je me disais, mais moi, c'était le sixième membre de ma famille, la télé. Je comprends pas. Moi, j'ai envie d'être dans le salon des gens. J'ai envie qu'ils me découvrent. Le cinéma, ça coûte de l'argent quand même. Donc, on n'a pas forcément tous les moyens. Il y en a qui n'ont pas tous accès aux plateformes, les personnes âgées, etc. Donc, moi, j'ai envie d'être dans leur salon. J'ai envie de les divertir. J'ai envie de les amuser. J'ai envie d'éveiller leur conscience à certains moments.
Donc, il y a ça, il y a cette dimension-là, effectivement, du non-snobisme, on va dire, de l'actrice de théâtre et de cinéma qui veut bien aller dans le petit écran. Mais il y a aussi du Sabrina Ouazani qui est dans le salon de Madame Michu, si j'ose dire.
Oui, c'est vrai. Avec Prière d'enquêter, d'ailleurs, on a été leader sur France Télévisions. Et ça a été une grande, grande surprise que de se dire, bah oui, en fait, une héroïne maghrébine et leader.
Vous êtes reconnue dans la rue aujourd'hui ?
Oui. Oui, et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, je vais avoir autant un public qui a pu suivre Taxi ou la série validée sur Canal+, ou Plan Cœur sur Netflix, que des personnes différentes, plus âgées ou d'une catégorie socioculturelle loin de moi qui ont pu me découvrir dans leur salon avec le personnage d'Elie Talem dans Prière d'enquêter.
Donc il y a peut-être une fenêtre de tir aujourd'hui pour que la France regarde enfin sa part de diversité, même si on n'aime pas tellement ce mot. Comment vous avez accueilli la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture ?
Très surprise, mais surtout très très curieuse. Très curieuse de voir, je suis pas assez calée politiquement pour savoir qu'a fait Rachida Dati ces dernières années dans le monde politique, en tout cas ce à quoi elle aspire et surtout ses envies. Donc je suis curieuse de voir ce qui nous attend.
Ouais, les amoureux de la culture sont inquiets.
Oui. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre, donc j'espère
pas vous.
Je pense que je suis pas assez aguerrie et je pense que je n'en sais pas assez pour pouvoir l'être. Voilà.
Merci Sabrina Ouazzani de cette belle visite en Hermia pour un sol majeur, avec encore un petit choix à faire pour vous entre une certaine Wallen pour Mes rêves ou Lauryn Hill pour The Misfit Education. D'ailleurs, j'ai vu que la seconde avait inspiré la première.
Oui, c'est vrai, effectivement, on est là, on est face à deux artistes. Wallen, qui est la pionnière du R&B en France et qui est pour moi une poétesse aussi. Et Lauryn Hill, qu'on adore. Il faut choisir.
Ah oui.
Eh bien, ce sera Mes rêves.
Eh bien, ce sera d'accord.
Ce sera Mes rêves, Wallen.
Générique de cet ensemble majeur consacré à Sabrina Ouazzani, la bande-son de notre invitée en trois répliques. Première réplique.
Toujours. Ça va être chiant si on a tous nos costumes. Ça va trop le faire.
Tiens,
on en a rien à branler des costumes. Franchement, ce qu'il faut, c'est vivre le sentiment du personnage. Il faut que ça vienne de l'intérieur, tu vois. Faut ressentir l'esprit, etc. quoi. Faut pas voir l'apparence, faut voir ce qui dégage, etc. Et les habits, franchement, on en a rien à foutre. Hein. C'est pas l'apparence qui compte, c'est le cœur, etc. tu vois.
Deuxième réplique.
Le soleil n'était pas aussi fidèle au jour que Lysandre l'était à moi. Se serait-il arraché à la dormante Hermia ? Je croirais plus volontiers que la terre entière eût été trouée et que la lune eût pu se glisser en son centre et ainsi aller contrarier le soleil, son frère de midi jusqu'aux antipodes.
Troisième réplique.
Maman ? T'as mis une musique d'ambiance ou quoi ?
Y'a un bouton !
Tout ça à retrouver en podcast sur votre appli Pure Radio. Le trio Caroline Filliette, Théo Raison, Yasmine Chouaki vous retrouve demain, direction la Turquie, avec une certaine Mehtap Teke. Dans un instant, votre journal, suivi de tous les cinémas du monde.